Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Et s'il reste du temps, on fera du prix plancher. Mais uniquement s'il reste du temps. Alors, j'ai pas trouvé un économiste qui défend les prix planchers, qu'il soit de gauche ou de droite. Alors, Philippe Chalmin en remet une couche ce matin dans les Échos. Il dit que c'est une chimère. Voilà, c'est un miroir aux alouettes. Et il nous rappelle que la PAC s'est construite sur une idée de prix intermédiaire et qu'on connaît la suite. Bonjour, Éric Heyer.
Bonjour.
Bienvenue, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Vous avez coécrit une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champ Actuel. Augustin Landier, bonjour.
Bonjour.
Professeur à HEC, co-auteur avec David Tesmar du prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels chez Flammarion et co-auteur avec David Tesmar de cette chronique dans les Échos le 8 février. De toute façon, vous n'avez jamais écrit tout seul. Et lui non plus d'ailleurs.
Oh bah, la recherche c'est un travail collectif hein, maintenant, donc j'écris pas qu'avec David, mais en fait on travaille par équipe le plus souvent maintenant en recherche.
J'ai ressorti là les 10 idées qui coulent la France. Je crois que vous pourriez en réécrire une partie. Il est sorti il y a pas mal d'années.
Elles ont la dent dure, ouais, c'est des idées qui sont pas sorties de l'esprit des gens. Ouais.
C'était le précédent. Bonjour Stéphane Van Uffel.
Bonjour Nico.
Co-fondateur de netinvestissement.fr. Voilà ce que nous dit France Stratégie sur les réformes 2019-2021. Je vous rappelle, on change le mode de calcul du salaire journalier de référence. Je rentre pas dans le détail, c'est cornélien. Hein. On passe de 4 à 6 mois la durée minimale de travail pendant les 24 derniers mois pour pouvoir s'inscrire à Pôle emploi. On impose la dégressivité des indemnités des cadres de 30% à partir du 7e mois, mais uniquement pour les hauts salaires, et on met en place un bonus-malus pour les employeurs qui multiplie les contrats courts. Qu'est-ce que ça a donné, nous dit France Stratégie ? Des résultats. Oui, mais alors on a du mal à quantifier ce qui est purement lié aux réformes, et ce qui est aussi lié à un formidable décollage du marché de l'emploi après Covid. Et puis, il faut bien reconnaître qu'annoncer une nouvelle réforme de l'assurance chômage, alors que le président s'était engagé à rendre les systèmes contracycliques... Voilà. Bon, comment vous accueillez, Éric Heyer, ces travaux de France Stratégie qui disent deux choses quand même. Je retiens deux choses. Le fait de passer de 4 à 6 mois la durée d'activité, objectivement, il semblerait vraiment que ça ait poussé à la reprise d'activité, donc point positif. Et bonus-malus, qui cette fois-ci concerne les employeurs, a provoqué un allongement de la durée des contrats. On aurait tendance à dire, il y a de moins en moins de doutes sur le fait que ce genre de réformes ont des effets positifs.
Moi, les doutes sont pas levés.
Et alors,
c'est un rapport intermédiaire. Et si vous rentrez dans le détail, oui, effectivement, ça a permis de un retour à l'emploi un peu plus rapide. Mais ce que dit le rapport, c'est que si vous étiez dans un contrat court, il n'y a pas eu de reprise plus rapide. Et si vous étiez dans un contrat un peu plus long, un retour à l'emploi effectivement plus rapide, mais dans un emploi moins durable. Donc attention, et ça je pense c'était l'idée qu'il y avait quand même derrière, c'était attention, dès que vous mettez la dégressivité, dès que vous durcissez, oui, bien sûr, vous incitez les personnes à retourner plus vite à l'emploi, ça je pense que personne n'avait de doute là-dessus, le problème c'est que ça prend normalement de l'emploi à des personnes qui auraient pu avoir ces emplois-là. Donc en termes de chômage, il y avait quand même, ça a bien été documenté, c'est-à-dire tout type de dégressivité n'a jamais fait baisser le chômage. C'est-à-dire que vous incitez, admettons les cadres, à reprendre un emploi, mais un emploi de moins bonne qualité.
Il prend un emploi qui aurait pu bénéficier à quelqu'un de moins qualifié.
Exactement, et ça, la littérature académique était quand même assez abondante, ce n'est pas bon à long terme. Pourquoi ? Parce que les personnes se sentent déclassées, ils prennent un emploi qui n'était pas à leur juste valeur, et les employeurs sont déçus parce qu'ils pensaient avoir finalement quelqu'un de plus qualifié que ce qu'ils attendaient, et finalement ils s'aperçoivent qu'il n'est pas ultra motivé dans ce travail-là.
Donc attention. On dégrade la qualité au profit de la quantité.
Et vous n'êtes pas exactement à votre juste valeur. Donc moi, je serais quand même très prudent. En plus, vous l'avez très bien rappelé, c'est pendant une période où la conjoncture repartait, où on a créé énormément d'emplois. Donc, est-ce que c'est lié à l'activité ou est-ce que c'est lié à la réforme ? Il va falloir attendre. Donc, c'est très bien. Faisons ce type d'études, mais attendons avant de dire, voyez, ça fonctionne. Et donc, et ensuite, pour votre deuxième question, est-ce qu'il faut faire une V3 ou une V4 ?
On est à V3, enfin sous ce président-là.
On est quand même à la cinquième réforme depuis 2017. Non mais c'est énorme.
Cinquième
depuis 2017. Enfin, ça sera la cinquième si on en fait une nouvelle. Donc on est à la 4. Donc tout de même,
il y en a qui m'ont échappé des réformes de l'assurance.
Mais moi je pense que aujourd'hui, penser. Alors moi très sincèrement, je suis, mais vous le savez, pour la contracyclicité. Donc, que l'on essaie de durcir les droits quand il y a une conjoncture qui est bonne. Je pense qu'on est allé un peu trop vite et un peu trop loin, mais pourquoi pas ? C'est effectivement, il y a des difficultés de recrutement, et essayons de durcir un peu pour essayer de faire que le chômage un peu structurel baisse. Mais aujourd'hui, la conjoncture a complètement changé. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise nous disent, on n'a plus de demandes, les carnets de commandes sont vides. Aujourd'hui, il n'y a plus de création d'emplois. Les créations nettes d'emplois, c'est zéro, même légèrement négatif.
On est en négatif ? Je croyais qu'on était encore un peu positif.
Ça fait moins 8000.
Bon, oui, d'accord.
C'est zéro, disons zéro. Ok, quand vous n'avez pas de création nette d'emploi, pensez que les chômeurs ne veulent pas retourner à l'emploi parce qu'ils préfèrent rester au chômage. Non, aujourd'hui, quand vous êtes dans une conjoncture qui ralentit, d'accord, normalement la contracyclicité dit, bon, bah, c'est bien de laisser du temps aux chômeurs au chômage, réduire leurs droits, ça veut dire qu'ils vont tomber dans des minima sociaux, d'accord, ils risquent de sortir du radar, c'est-à-dire qu'ils vont même plus s'inscrire à Pôle emploi, alors si maintenant, parce qu'ils vont être obligés, mais globalement...
Pour les RSA. Hein.
Oui, mais je pense que là, ça sera pas le bon moment. Donc, sincèrement, je pense que là, il y a eu suffisamment de réformes. Attendons que ces réformes prennent et allez vite pour une nouvelle réforme uniquement, parce que c'est ce qui est dit aussi dans le rapport. C'est-à-dire que ce qui a marché, c'est qu'il y a eu 17% de moins d'allocations chômage.
J'avais pas donné effectivement le chiffre, mais c'est celui-là.
Bon.
La baisse des ouvertures de droits entre...
Si vous voulez faire des économies, ça marche, oui, parce que vous réduisez les droits. Mais attention, ces personnes-là, d'accord, ne sont pas au chômage parce qu'elles ont envie d'y rester, mais c'est aussi parce que, globalement, il n'y a plus de création d'emplois.
Gabriel Attal, donc, en deux jours, JDD et Salon de l'agriculture hier, il dit la même chose. Voilà, il dit, voilà, il est possible qu'on réduise encore la durée d'indemnisation. Elle est tombée à 18 mois pour les moins de 53 ans. On pourrait aller à 15, je ne sais pas. Hein. Ou alors qu'on aille plus loin en termes de dégressivité, que ce ne soit pas uniquement au bout de 6 mois, à partir du 7e mois, pour les hauts revenus cadres, mais pour plus de gens. Il y a un moment, si on réduit, si on met de la dégressivité, il faudra aussi jouer sur les cotisations. Quel est votre avis ? Je vais vous le dire plus violemment, parce que c'était la logique britannique. Les Britanniques se disaient, on va rendre totalement insupportable la période de chômage. Tellement insupportable que personne ne va vouloir résister. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont mis à 98 livres l'indemnité hebdo, peu importe le salaire qu'on a avant. Vous assurez, quand vous aviez un bon gros salaire et que vous tombez à 98 livres par semaine, c'est la misère totale. Mais bon, c'était leur pari. Vous en pensez quoi ? Il faut remettre le couvert aujourd'hui, au moment où tous les indicateurs basculent.
Bah, d'abord, vous vous tournez vers moi pour
Stéphane
le modèle.
Stéphane
Venufel. Voilà, vous tournez vers moi pour le modèle anglo-saxon.
Non.
Ils ont pas forcément toujours raison.
J'ai simplement dit plus violemment.
Non, mais parce que moi, je défends souvent des idées libérales, mais pour autant, le libéralisme anglo-saxon, américain, anglais n'est pas forcément loin de là.
Non, il y a des bémols dans votre libéralisme.
En politique
sociale. Je sais, il y a des bémols dans votre libéralisme.
D'abord, la question qui est posée est extrêmement large et extrêmement compliquée. D'un point de vue très politique, ma vision à moi, Nicolas, elle est simple. Gabriel Attal, comme le président Emmanuel Macron, il répond aux besoins des Français. Tous les sondages le dit, la dégressivité, les Français étaient pour. La réduction encore là des indemnités dans le temps, les Français sont pour. Sauf quand ça commence à les toucher, eux. Oui. Donc en fait, on est finalement dans une phase, pour moi, dans ma vision à moi, d'abord tout à fait politique.
Ah donc, je résume ce que vous dites. Comme on sait que l'opinion globalement sur un durcissement des conditions de chômage est plutôt du côté du durcissement, allons-y, c'est ça l'histoire.
C'est pas allons-y, c'est essayons. On fait de la politique. Et Eric a raison. Et alors, à partir du moment, et c'est pour ça que j'ai beaucoup débattre avec Eric.
C'est la vie des gens derrière.
Je suis fondamentalement souvent pas d'accord avec Eric hier. En revanche, la façon dont il exprime les choses met beaucoup de clarté dans le fait de ce pourquoi je ne suis pas d'accord. Ce que fondamentalement, je pense, nos politiques souvent ne font pas. Ils n'en sont pas allés expliquer le problème du ruissellement lorsque l'on fait ce genre de dégressivité ou lorsque l'on réduit la durée du chômage. C'est-à-dire qu'on finalement on appauvrit les compétences de certaines personnes qui remplacent des gens qui en ont encore moins. Donc en fait, on durcit le chômage le plus difficilement résorbable, celui des gens les moins qualifiés. C'est le libéral qui vous dit ça. C'est pas pour autant que je suis d'accord de dire ouais, intellectuellement, il faut quand même faire quelque chose. C'est-à-dire qu'intellectuellement, on ne peut pas se dire à partir du moment où je vais être déclassé, je vais rester en inactivité plutôt que de reprendre un boulot. C'est là où le libéral a les oreilles qui commencent à bourdonner et où on n'est pas d'accord. Parce que je dis, si, crée ta propre entreprise, deviens auto-entrepreneur, etc. Elle est juste là, la différence.
Et traverse la rue, quoi.
Traverse la rue.
Oui,
arrête
ça.
De compter sur l'État tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'à un moment donné.
Non, mais on a fait pas mal quand même. C'est pour ça que je dis, on n'a pas rien fait.
On a fait pas mal. Alors maintenant, je vais juste vous donner le dernier point, parce que je vais laisser Augustin parler de ça. Mais Moi, il y a une seule chose qui me gêne, c'est le chiffre que vous avez malheureusement oublié, mais qu'Éric a rappelé, les 17% d'économie.
17% de, non, 17% de baisse d'ouverture de baisse, des droits.
Oui, mais donc ça veut dire fondamentalement des
économies. Ça veut dire des économies,
bon,
ok.
Et, bon, je l'ai dit.
Entre premier semestre 19, premier semestre 22.
Je l'ai dit, et je vous retrouverai tous les podcasts sur ce plateau depuis 10 ans, à chaque fois, si on doit faire à un moment donné des économies sur l'emploi, ces économies ne doivent pas être gardées, elles doivent être réinjectées dans d'autres façons d'aider les Français à revenir à l'emploi. Alors attention, je mets ma casquette, enfin mon Stetson.
Vous en avez des casquettes.
En donnant les moyens à peut-être des organismes privatisés d'aider aussi le retour à l'emploi pour mettre en concurrence France Travail, Pôle Emploi, on l'appelle comme on veut. Il faut surtout éviter d'imaginer faire des économies sur le travail, le retour à l'emploi. C'est impossible, en particulier lorsque l'on passe la barre des 50 ans. Toute économie faite doit être réinjectée uniquement dans l'amélioration de ce système de retour à l'emploi. Mais... Donc, par exemple, si on doit réduire la durée du temps de travail pour la dernière explication de réforme, parce que ça éviterait peut-être que certains, et je pense qu'ils sont pas si nombreux que ça, restent tranquilles chez eux, parce que c'est ça que les gens s'imaginent, plutôt que de retourner bosser, ok, on le fait. Mais les économies, à ce moment-là, doivent permettre d'éviter ce réflexe de déclassement que pourrait avoir un cadre vers un métier intermédiaire et un intermédiaire vers un métier non qualifié. C'est la seule chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Sinon, moi, je suis évidemment pour qu'on réforme encore plus et qu'on privatise une partie du retour à l'emploi.
Il y a un timing. Il y a un timing pour les réformes.
Mais la concurrence, elle est saine. D'accord. Par moment, si elle est maîtrisée.
Je vais réagir, Augustin. J'ajoute un élément d'information qui date d'hier. On voit venir de manière assez précise, parce qu'il y a même des débuts de pistes très précises, au-delà des 10 milliards de coupes dans la dépense de l'État, qui ont été publiés par décret. On a vu avec François Eckel hier qu'on était probablement sur un chiffre brut et pas un chiffre net. François, lui, son pari, c'est qu'on si on arrive à 4-5 milliards nets, ce sera quand même déjà pas mal. Et là, on commence à parler maintenant de s'attaquer à la dépense sociale. Ouais. Il y a la réforme de l'assurance chômage, on vient d'en parler, mais il serait question de monter la CSG sur les indemnités des chômeurs, qui est réduite aujourd'hui, et éventuellement de remettre en cause le remboursement à 100% des ALD, les affections longue durée. Tout ça s'ajoute à tout ce que l'on sait déjà sur le doublement des franchises médicales et autres. Votre position, Augustin, par rapport à ce qu'on vient de se raconter?
Séparons un peu l'économique, et puis après, comment ça rentre dans le débat politique d'aujourd'hui. Sur le pur économique, je suis d'accord avec Eric, il y a des arbitrages compliqués. D'ailleurs, les règles qui s'appliquent à un moment, qui sont optimales à un moment, ne le sont pas forcément à un autre. On est dans une période quand même de changement technologique fort. Moi, mon sentiment, c'est, et il y a un aspect intergénérationnel dans la mesure, qui est qu'elle vise au fond plutôt les plus de 50, je ne sais plus quel est le seuil, 52, 53. Donc cet aspect intergénérationnel, il est important parce que, en période de choc technologique, si vous voulez, les primes de séniorité, l'idée qu'un type de 55 ans doit gagner nettement plus que quelqu'un qui rentre sur le marché de l'emploi, elles ne sont pas toujours, elles reflètent souvent mal la productivité. Et donc ça, il y a un moment où effectivement les gens doivent accepter des décotes de salaire, cette espèce de tabou sur
accepter des décotes.
Mais bien sûr. Donc ça, c'est ce que le rapport montre d'ailleurs, le rapport qui
je
est
doute présenté que les partenaires sociaux nous proposent ce genre de piste.
Le rapport montre que effectivement ça pousse les gens à accepter parfois des salaires plus faibles que ce qu'ils avaient avant, parce que la productivité d'un senior est pas toujours nettement plus forte que celle d'un junior dans des périodes de changement technologique fort. Donc je pense que c'est de manière cryptée, c'est pour ça que c'est Attal qui l'apporte aussi, je pense. Il y a un aspect générationnel, qui à mon avis un élément intéressant de ces idées.
J'ai jamais entendu les choses expliquées comme ça par Gabriel Attal, excusez-moi.
Mais oui, mais n'empêche que c'est bien ça qui
les messages cryptés qui sont absolument indécryptables pour les gens, c'est sympa.
C'est écrit, mais c'est dit noir sur blanc, ça vise essentiellement la durée d'indemnisation des personnes de plus de 53 ans. Donc l'idée, c'est bien de dire, il y a des cas où il faut accepter de ne pas être payé autant qu'on était avant, je pense que c'est ça.
Il a parlé des 18 mois, Gabriel Attal, c'est la durée en dessous de 53 ans. Il n'a pas parlé des durées majorées entre 53 et 55, et encore un peu plus majorées, je crois qu'on est passé de 36 à 28 mois pour les plus de 55. Ouais. Trop ce qu'il veut faire, en fait. Mais ensuite, qu'il va mettre ça au menu des partenaires sociaux.
Donc après, il y a l'économique stricte. Après, dans le débat public, moi, je remarque effectivement, les levées de boucliers ne sont pas drastiques. C'est-à-dire que les gens ont l'air de considérer que, ce n'est pas légitime de passer plus d'un an au chômage. Il y a une espèce de... Effectivement, en tout cas, c'est un peu un ballon d'essai, ce truc, et on voit bien que les réactions sont pas très violentes. Donc il y a bien dans la société l'impression que les gens doivent
se
bouger. Cela dit, donc dans le rapport, parce que j'ai regardé un petit peu, donc d'abord le rapport il est pas conclusif, il prend plein de pincettes pour dire il est beaucoup trop tôt pour conclure quoi que ce soit, mais un des éléments que j'ai trouvé intéressant, c'est il documente le fait que les TPE PME en fait sont même pas au courant vraiment des réformes bonus malus. Donc il y a des sondages, on leur demande, est-ce que ça vous avez changé, ils disent mais on n'est même pas au courant de quoi vous, donc ça c'est très intéressant en fait.
Entre ça et les pas, les individus qui ne savent même pas qu'il y a eu une ou deux ou trois réformes.
Donc ça rejoint le thème de la prolifération normative, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les gens arrêtent de suivre, ça change tous les trois mois. Donc voilà. Donc ça, c'est l'autre aspect de ces débats.
Je viens de réaliser qu'il y a eu 5 réformes depuis 2017.
Ouais,
objectivement, je ne suis pas capable de vous citer. Je peux vous en citer 3. Mais pas 5.
Bon, donc il faut sans doute stabiliser économiquement.
Bruno Coquet de l'OFCE est cité ce matin. Il dit, généralement, vous ne mettez jamais les gens dans la rue en réformant l'UNEDIC. Et généralement, c'est plutôt considéré comme des réformes populaires. Donc, politiquement, il n'y aurait pas de risque. Alors, Eric, allez-y.
Mais pourquoi on ne met personne dans la rue? Parce qu'il faut rappeler que la durée d'indemnisation, vous voyez, on parle de la potentielle, c'est 18 mois, mettons, mais en effectif, c'est la moitié. En moyenne, les chômeurs prennent la moitié de leurs droits. Donc, en fait, ça touche pas grand monde. Et donc, puisque ça touche pas grand monde, bah, ça met pas beaucoup de gens dans la rue. Ça touche juste ceux qui ne peuvent plus faire autrement. Alors, soit de façon volontaire, soit de façon involontaire. Et c'est ça qu'on devrait essayer de contrôler. C'est qui le fait de façon volontaire. Et essayons de faire du contrôle pour ceux qui le font.
C'est très difficile.
Alors, c'est très difficile.
Pôle emploi a essayé de le faire. Il arrivait à des chiffres à peu près microscopiques.
Et ben voilà,
de gens qui effectivement étaient en position de profiter.
Oui, mais Nicolas, vous dites bien la chose. C'est qu'effectivement, il n'y a que 8 à 10% des chômeurs qui ne jouent pas le jeu. Et donc, on fait des mesures pour ennuyer tout le monde. Alors qu'on devrait faire des mesures pour ennuyer les 8 à 10 qui ne jouent pas attention aux effets de bord. Ça, c'est le problème.
C'est pas uniquement de la punition. Il y a l'idée que ça accélère la reprise d'emploi globale.
Oui, mais encore une fois, si ça accélère et que ça aboutit à un optimum un peu dégradé, c'est-à-dire qu'on ne va pas là où on veut, je crois pas que ça soit comme ça qu'on s'épanouisse au travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais signaler, c'est que je pense que le gouvernement va être pris à son propre jeu. Parce qu'il a mis, en même temps, il a voté une loi de contrat cyclicité. Rappelez-vous, quand le taux de chômage, et il a mis avec le taux de chômage du BIT, quand le taux de chômage au BIT descend, on durcit. Quand le taux de chômage au BIT remonte, on va réallonger. C'est à 9%. Si le taux de chômage remonte à 9%, la durée automatiquement va augmenter. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'ils veulent accélérer? Je ne sais pas. Mais regardons maintenant. Là, le taux de chômage, si on a raison, 7, il a 7,4.
4, oui,
7,4. Ok, 7,5, pardon. 7,5. Oui, 7,5. Imaginons qu'on ait raison à l'OFCE et que le taux de chômage continue à augmenter cette année.
Vous le voyez à 8, je crois.
À 7,9. Allez, 8, disons. Bon. On va être à 8. Qu'est-ce qui arrive en fin 2024? Qu'est-ce qui arrive en 2025? Le fait que tous les bénéficiaires du RSA doivent s'inscrire à Pôle emploi. D'accord? Et quand tu t'inscris à Pôle emploi, en plus, tu dois faire les 15 heures d'activité, c'est des recherches d'emploi. Tiens, d'un coup, les chômeurs qui étaient dans le halo du chômage, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas considérés comme chômeurs parce qu'ils ne recherchaient pas un emploi activement, vont rechercher un emploi activement.
Ils seront donc éligibles à la définition de l'égalité.
Et voilà. Et vous savez
ça
combien
va faire bondir.
Vous savez combien il y a de personnes, ça va toucher combien de personnes? 1,2 million.
Oui, il y a 60% des RSA qui sont pas.
Donc si 1,2 million, alors ça, tout le monde ne va pas. Mais bon, si, imaginons.
J'ai compris.
Imaginons qu'il y ait beaucoup de monde qui s'inscrive, le chômage au sens du BIT passe à 9, la durée augmente. Et donc, du coup, le gouvernement qui voulait le réduire va être obligé de l'augmenter à cause de cette mesure. Mais voyez, moi, je pense que si la hausse du chômage est liée à cela, c'est une bonne hausse du chômage. Si les chômeurs qui n'étaient pas considérés, qui n'étaient pas sous le radar, qui ne les recherchaient pas activement, eh ben, ils recherchent, tant mieux. Ils ne vont pas toucher l'indemnisation à ces gens-là, de toute manière, parce qu'ils n'ont pas travaillé. Mais ils vont rechercher de l'emploi et c'est plutôt bien. Donc, vous voyez, il ne faut pas voir la période de chômage comme une mauvaise période. Au contraire, il faut, au moment où on les a sous le radar, les aider à retrouver un emploi, à leur dire il faut les qualifier, il faut t'encourager, on va te suivre. Mais ça, vous voyez, il faut réinverser la façon de voir le chômage. La période de chômage, généralement, c'est une période qui doit être cruciale où on dit, tiens, voilà, t'es déqualifié parce que maintenant, les nouvelles technologies, tu sais pas, et donc tu vas pas rester dans cet emploi-là, on va te reformer à autre chose. Et donc, mais des fois, il faut plus que 6 mois pour réapprendre un métier,
marque une pause,
etc. Donc c'est très important.
Je rappelle juste un élément par rapport à ce que disait Eric. En début 2025, on va généraliser l'obligation de 15 à 20 heures d'activité pour les bénéficiaires du RSA, qui sont 1 900 000, mais sur les 1 900 000, il n'y en a que 40% aujourd'hui inscrits dans les dispositifs de service public de l'emploi, ce qui veut dire qu'on va avoir une explosion un peu mécanique.
Alors, à cela, il faut rajouter les jeunes. Les jeunes qui sont dans les dispositifs sont obligés aussi.
Les jeunes de quoi?
Les jeunes qui sont dans les dispositifs d'insertion vont être obligés aussi de s'inscrire à Pôle emploi. Et donc, c'est ça qui fait le 1,2 million.
Ça va pas être bon pour le moral, hein, si on retrouve les 9,2% de chômage.
Ah, c'est possible. Il faudra expliquer pourquoi le chômage augmente. Oui. C'est pas uniquement à cause de la conjoncture.
Vous avez remarqué qu'il est très rare qu'on puisse rentrer dans la complexité d'un sujet économique pour vraiment le. Le nombre de fois, le nombre d'heures que j'ai passé à raconter, même sur BFM TV, ces réformes. Et là, dans l'étude de France Stratégie, la majorité ignore totalement qu'il y a eu des réformes de l'assurance chômage. Donc c'est parfois un peu désespérant. Vous voulez réagir, vous réagirez dans un instant. Je voudrais quand même vous demander si remettre une couche de coupe budgétaire sur le social. Après, continuer à dire qu'il n'y a pas de baisse d'impôts, il y a un moment, il faudra arrêter. Hein, parce que là, ça va être bon. Après, on fait la semaine de 4 jours et la croissance. Enfin, on va faire décoller l'activité avec Augustin Landier. A tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.